Nous allons passer aux versets sur lesquels reposeront la prédication. Le premier, qui est le principal, se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 3 à 6. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Et puis, deux passages qui l'accompagneront encore. Le premier, dans Jérémie, au chapitre 31, versets 33 à 34. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et le troisième passage se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Bonjour à chacun. Ma prière ce matin, c'est que l'Esprit illumine notre cœur pour reconnaître que nous l'avons connu. C'est ma prière. Nous sommes actuellement dans une série où nous étudions la première épître de Jean et nous avons l'habitude de parcourir le texte petit à petit en le laissant nous parler. Et l'épître de Jean que nous avons commencé donc nous invite à saisir l'occasion de nous réjouir de notre foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont nés de nouveau, eh bien que nous sachions que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, de vous permettre de vous en rendre compte afin de venir à Christ, vous repentir, de croire et savoir que vous avez la vie éternelle. 1 Jean 1,3, par exemple, nous a déjà permis de comprendre un élément principal, fondamental, essentiel du christianisme, qui est la communion avec le Père et le Fils. La communion avec le Père et le Fils. Le christianisme se vit en fait dans cette merveilleuse communion qui nous donne une identité, un sens, une valeur, une espérance. Dieu est lumière et le croyant vit dans la lumière. Oui, il est conscient de son péché, mais il ne le voit pas comme étant normal ni inéluctable. Ouf, ça veut dire quoi, inéluctable ? Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas l'empêcher ou l'éviter. Non, il n'est pas inéluctable. Le chrétien est purifié de tout péché par le sang de Jésus-Christ. Le chrétien confesse et Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner ses péchés. Le chrétien cherche à ne pas pécher. Et il sait qu'il a un avocat qui plaide sa cause et qui a expié ses fautes et rendu propice pour lui. C'est toutes ces choses qu'on a vues en fait déjà dans l'épître de Jean, dans le premier chapitre. Et toutes ces choses devraient déjà aider en fait le chrétien à savoir qu'il a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, par l'apôtre Jean, indique maintenant trois réponses ou trois tests qui permettront de savoir ou de nous rassurer, de nous conforter que nous sommes chrétiens. Et le premier de ces réponses ou premier de ces tests, c'est dans les versets 3 à 6 du chapitre 2. C'est ce qu'on appelle le test moral. C'est celui que nous allons aborder ce matin. Ensuite, nous trouverons le test social, cette notion de l'amour. Et ensuite, le test doctrinal que nous verrons ensuite dans la série donc, de cet épître de Jean. Jean reprendra ces différentes notions à différents moments dans son épître, mais c'est ici qu'il nous les présente en premier. Donc on va simplement les aborder tels qu'il nous les présente. Alors dans le verset 3, donc je vous invite à avoir vos Bibles toujours ouvertes hein, dans 1 Jean 2, comme ça vous pouvez suivre. Donc dans le verset 3 de 1 Jean 2, il y a un mot que l'on trouve pour la première fois dans cet épître, un terme que Jean va utiliser régulièrement, un terme qu'il aime en fait, un terme qui peut aussi être problématique, c'est le terme « connaître » ou « ginosko », qui est de la même famille que « gnose », qui veut dire « connaissance ». Jean utilisera donc souvent ce terme encore dans son épître. C'est pourquoi je vais prendre un peu de temps dans un premier point pour parler de la connaissance. Ensuite, eh bien, nous allons nous arrêter sur le test lui-même. Et nous reprendrons toute la péricope des trois versets, enfin des versets 3 à 6, pardon, des quatre versets. Et nous allons là voir ensemble quatre affirmations qui font partie de cette réponse ou de ce texte. Donc le premier point, la connaissance. Jean va utiliser le terme connaissance, car comme le terme parole, logos, dans son évangile, le mot connaissance est remis à sa juste place selon une perspective de Dieu. En fait, ce terme de connaissance a été particulièrement connoté, et en quelque sorte pris en otage. Et ce, de deux façons dans les années précédant la venue de Jésus-Christ. Alors que la fin de l'Ancien Testament, vous connaissez un petit peu peut-être, sinon je vous invite à lire hein, la fin de l'Ancien Testament, c'est le peuple qui est revenu de Babylone et qui reconstruit le temple. Et bien pendant ce temps-là, à la même époque, et bien nous avons des penseurs grecs tels que Platon qui voient que la connaissance est quelque chose de rationnel. C'est par l'intelligence, par un puissant exercice de la pensée qu'il est possible d'arriver à la connaissance de Dieu. En fait, c'est une première prise d'otage de ce terme connaissance que l'on peut atteindre que par la raison. C'est une prise d'otage. Une première prise d'otage de ce terme connaissance est donc que l'on ne peut l'atteindre uniquement par la raison. Un peu plus tard, après la dernière prophétie de Malachie, sous le règne d'Alexandre le Grand et ses successeurs, l'idée de parvenir à la connaissance de Dieu par des expériences émotionnelles s'est développée et a donné naissance aux religions à mystère, avec leurs promesses d'union émotionnelle avec Dieu par différents moyens, comme la musique, les rituels, la méditation et autres. Si pour les uns c'est la raison qui amenait à la connaissance, pour les autres c'était les sens. La deuxième prise d'otage de ce terme connaissance est donc que l'on peut atteindre que par une expérience émotionnelle cette connaissance. Donc c'est la deuxième prise d'otage de ce terme connaissance qui est donc que l'on peut atteindre que par une expérience émotionnelle. Alors c'est vrai que ces deux prises d'otage ont parfois été mélangées dans l'histoire. En fait, je les nommerai tous par un seul groupe. Et ce nom que je donne à ce groupe, c'est les adorateurs de la connaissance. Les adorateurs de la connaissance. Qu'elle soit raisonnable, mystique ou les deux. Et pour être plus court, en fait, je parlerai des gnostiques. Le Saint-Esprit, par Jean, va libérer ce terme de connaissance de ces deux prises d'otage, justement, par notre texte. Et il se base sur des textes de l'Ancien Testament. Donc je vais commencer par là, dans Jérémie 9. Hein, vous pouvez aller regarder avec moi, dans Jérémie 9, vous gardez un petit doigt dans un Jean, nous y reviendrons. Donc Jérémie 9, verset 22. Nous lirons les versets 22 et 23. Et quand je lirai ce texte, vous ferez attention à cette notion du terme de connaissance. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas par sa sagesse, que le fort ne se glorifie de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence et de me connaître. Jusque-là, tous les gnostiques sont d'accord. Évidemment, continue. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. L'Éternel prend plaisir à la bienveillance, au droit et à la justice sur terre. C'est à cela qu'il prend plaisir, pas à une connaissance raisonnable ou émotionnelle. Cela signifie que si je le connais, je vis la bienveillance, le droit et la justice. Et cela, les gnostiques n'étaient pas prêts à le vivre, parce qu'ils étaient pour la plupart dualistes. Oh là là, ces mots ce matin. C'est quoi dualiste? C'est-à-dire, il séparait ce qui était de l'esprit, des pensées, hein, les expériences mystiques d'une part, et le corps, qui était de toute façon mauvais selon eux, et donc n'était pas à maîtriser ni à surveiller. L'essentiel pour eux, c'était d'avoir des extases dans le raisonnement ou dans leurs émotions, qui les amenaient à une connaissance qui les rendait supérieurs aux autres. Mais ils pouvaient vivre dans le désordre et la débauche, puisque le corps n'était rien. Alors vous avez sûrement déjà vu des films, je suppose. Donc si vous n'avez pas vu l'illustration, ce sera plus difficile à comprendre. Mais je suppose que vous avez tous déjà vu des films. Eh bien, si vous pensez de manière dualiste, le héros du film que vous regardez, c'est votre âme, qui est à la recherche de Dieu. Et votre corps est derrière l'écran où vous êtes. Peu importe comment vous vous sentez, vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez devant votre écran. Le héros n'est pas du tout perturbé. C'était ça cette pensée. Et Jean va souligner que cela n'a rien à voir avec la connaissance, selon la définition de Dieu, libérée de cette prise d'otage gnostique. En fait, la connaissance, selon Dieu, implique que nous formons un tout. La connaissance, selon Dieu, implique que nous formons un tout. La connaissance n'est pas détachée de ce que nous vivons. La connaissance n'est pas détachée de ce que nous vivons. Il n'y a pas de dualisme. Et la source n'est ni la raison, ni les émotions, mais Dieu lui-même. Je vous relis cette phrase qui résume un peu tout cela. La connaissance, selon Dieu, implique que nous formons un tout. La connaissance n'est pas détachée de ce que nous vivons. Il n'y a pas de dualisme. Et la source n'est ni la raison, ni les émotions, mais Dieu lui-même. Avant de nous tourner vers Jean, j'aimerais encore continuer dans Jérémie, qui nous donne un texte éloquent que nous avons lu tout à l'heure, dans Jérémie 31, qui parle en fait de la nouvelle alliance, qui parle de la situation dans laquelle nous sommes, nous vivons, que Dieu avait prévu pour nous. Donc Jérémie 31, versets 33 et 34. « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez la place de la loi. « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. La loi ou les commandements, si vous préférez, est écrite dans le cœur, c'est-à-dire comprise et vécue. Et en reprenant le contexte de Jérémie 31, nous comprenons, cela annonce ce que nous vivons dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En fait, il y a un lien direct entre la connaissance de Dieu et la loi placée dans le cœur. Alors j'espère que vous comprenez que c'est une bonne chose d'apprendre à connaître Dieu. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la connaissance est mauvaise. C'est une bonne chose de connaître Dieu. Et nous cherchons à le connaître dans la révélation qu'il nous a donnée, sa parole, la Bible. Évidemment que l'intelligence, la raison, les émotions, ça font partie de ce cheminement. Mais comment savons-nous que nous l'avons connu? Est-ce parce que nous avons une connaissance intelligente supérieure de Dieu? Ou une connaissance particulière suite à une émotion, une expérience émotionnelle? Non. Jean répond clairement, et revenez dans l'épître de Jean, cette fois-ci 1 Jean 2, Jean répond très clairement à cette question et met ce terme connaissance à la lumière de Dieu. Nous reconnaissons que nous l'avons connu, verset 3, si nous gardons ses commandements. C'est le test moral dont nous allons parler maintenant dans notre deuxième point, justement. Donc après le point sur la connaissance, nous avons pu comprendre que nous devons libérer ce terme de la prise d'otage des raisons et des émotions qui seraient les seuls moyens d'atteindre cette connaissance. Étudions le texte que Jean propose pour rassurer les croyants. Vous savez, Jean, il n'est pas en train de dire « Maintenant, je vais vous faire un test », un peu comme des fois on a l'impression, puis en fait, j'aimerais vous faire louper ce test. Mais pas du tout. Il est en train de nous dire « Je vais vous montrer quelque chose qui va vous rassurer. » C'est ça l'idée de l'apôtre ici. « Afin que ceux qui sont dans la foi sachent qu'ils ont la vie éternelle. » Donc nous allons relire ce texte, ces versets 3 à 6, pour bien l'avoir en tête. Si jamais sur les documents que vous avez pu prendre à l'entrée, sur les feuilles bleues, à l'arrière, vous avez aussi le texte qui est un petit peu structuré. Hein, vous voyez comme un sandwich où on a le verset 5b et 6 qui répond au verset 3 et qui commence chaque fois par « À ceci nous connaissons ». Et au milieu, il y a deux exemples de ce test, un exemple négatif et un exemple positif qui commence par « Celui qui ». Mais vous pouvez le voir dans vos Bibles lorsque nous le lisons maintenant. Donc relisons ce texte pour l'avoir en tête et voir ces quatre affirmations. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare « demeurer en lui » doit marcher aussi, comme lui, le Seigneur, a marché. Nous trouvons donc dans ce texte quatre affirmations, des états, des faits, des constatations et un ordre à suivre dans la quatrième affirmation. Donc la première affirmation est là pour rassurer les chrétiens. C'est le test de base, si vous voulez, ou l'affirmation de laquelle découlent toutes les autres. Nous la trouvons au verset 3. Hein, à ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. J'aimerais faire juste quelques remarques sur cette affirmation. La première, c'est que garder les commandements est un constat et non une cause. Garder les commandements est un constat et non une cause. Hein. Nous reconnaissons quelque chose qui existe. Il n'est pas écrit « Nous gardons ses commandements pour reconnaître que nous l'avons connu. » Ou pour l'illustrer, « Je ne vais pas agir comme le fils de la reine d'Angleterre pour devenir prince. Je vais agir comme un prince parce que je suis le fils de la reine d'Angleterre. De même, je ne garde pas les commandements pour connaître Dieu, mais je les garde parce que je l'ai connu. » D'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est fondamental ici dans ce texte. Deuxième remarque, ce que Jean dit ici devrait faire à tout jamais tous les antinomistes. On a un peu des mots étonnants aujourd'hui, mais je crois qu'on l'a vu la dimanche passé. Donc, antinomiste, c'est quelqu'un qui est opposé à la loi et à toute forme d'autorité. Certains disent que l'Ancien Testament, c'était la loi, et le Nouveau Testament, c'est la grâce, il n'y a donc plus de loi. Mais alors dans le Nouveau Testament de ces personnes-là, il manque par exemple le texte de 1 Jean 2, 3, je pense. Ou d'autres textes, comme Jésus qui dit lui-même dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ou encore dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Vivre la loi, c'est aimer celui qui l'a donnée. Vivre la loi, c'est aimer celui qui l'a donnée et donc le connaître. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc comment un antinomiste peut-il aimer Jésus-Christ? Comment un antinomiste peut-il aimer Jésus-Christ? Troisième remarque, Cela signifie-t-il que si je ne garde pas parfaitement les commandements, je n'ai pas connu Dieu? Non. On vient de lire dans 1 Jean, le premier chapitre, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Alors, il ne va pas juste dire après, si vous ne gardez pas tous les commandements parfaitement, vous n'êtes pas dans la foi. Donc, si je ne garde pas les commandements parfaitement, est-ce que je n'ai pas connu Dieu? Non. Garder signifie que je tiens aux commandements de Dieu. Je les considère comme bons et je cherche à les vivre en regrettant lorsque je n'y arrive pas. C'est ça, garder les commandements. Je tiens aux commandements de Dieu. J'y tiens. Je les considère comme bons. Je cherche à les vivre en regrettant lorsque je n'y arrive pas. Et je ne le ferai pas parfaitement, c'est vrai. Parce que même si Dieu me pardonne, je reste pécheur. Comme nous l'avons vu au chapitre 1 aussi. Mais je me repentirai et je chercherai à pratiquer ces commandements parce que j'y tiens. Parce que c'est ce qui est dans mon cœur. Il l'a écrit dans mon cœur. C'est comme si je parlais une nouvelle langue. Imaginez, une langue où en fait il n'y a aucun vilain mot. Aucun mot mauvais. C'est génial ça. Voilà, on doit imaginer. Mais voilà. On parle cette nouvelle langue et nous pourrions dire ça, c'est garder les commandements de Dieu. Mais parfois, les vilains mots de ma langue maternelle, qui sont mes commandements à moi, me reviennent encore. Mais je n'en veux plus. Je ne veux plus parler cette langue. C'est plus mon habitude. Mais j'y pense encore bien trop souvent. Vous voyez ? C'est ça cette notion de garder les commandements de Dieu. 1 Jean 2, 3, « À ceci nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » La deuxième affirmation, cette fois-ci, est négative. Elle nous parle de celui qui ne passe pas le test. C'est le verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'habite pas en lui. Vous savez, le fondement du gnosticisme, je vous le donnais. Ce qu'il désire avant tout, c'est être délivré de l'ignorance. Ça, c'est le fondement du gnosticisme. C'est être délivré de l'ignorance. C'est pas être délivré du péché. Je l'ai connu, disent-ils. Et bien souvent avec orgueil, en parlant de leur expérience émotionnelle ou alors de leur capacité intellectuelle à comprendre Dieu plus profondément. Ils disent, peut-être que vous croyez, mais nous, nous connaissons. Nous comprenons des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez la foi, mais nous avons l'intelligence. Peu importe ce que nous vivons, de toute façon, tout est grâce, hein, vous le savez. C'est connu. La connaissance selon Dieu n'est ni dénuée d'intelligence, ni privée d'émotion, mais elle est d'abord pratique et totalement connectée à la réalité. La connaissance de Dieu n'est ni dénuée d'intelligence, ni privée d'émotion, mais elle est d'abord pratique et totalement connectée à la réalité. Osée parle de ce qui se passe quand on ne connaît pas Dieu. Très clairement. Je vais vous lire dans Osée 4 ce que signifie ne pas connaître Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'ils n'ont point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Ça marche? On va voir qu'est-ce que c'est les conséquences. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Celui qui dit connaître Dieu et a l'habitude de ne pas garder les commandements de Dieu est un menteur. Sa connaissance en lui, qui veut le faire paraître supérieur aux autres, n'est pas la vérité. C'est pas moi qui l'affirme. C'est la parole de Dieu dans 1 Jean 2, 4. Et si quelqu'un, ce matin, est dans ce cas, qu'il dit connaître Dieu, dans le sens d'avoir une relation avec lui, d'être proche de lui, d'être accepté, agréé par lui, mais qui se détourne constamment de ses commandements et ne cherche pas à les vivre, le Saint-Esprit, par Jean, vous dit, vous êtes un menteur et la vérité n'est pas en vous. Donc si quelqu'un dit connaître Dieu dans cette relation, mais qu'il se détourne constamment des commandements de Dieu et ne cherche pas à les vivre, hein, qu'on comprenne bien, et que celui qui est dans cette situation reconnaisse son piteux état de pécheur, qu'il se repente de ses péchés, qu'il croit en Christ qui a parfaitement tout payé, et il sera transformé. Encore une remarque à propos de cette deuxième affirmation. C'est aussi un moyen de savoir quel enseignant écouter. Si quelqu'un a des grandes capacités intellectuelles et qu'il semble comprendre des choses incroyables de la Bible, voire des états émotionnels très proches de Dieu, mais que habituellement et manifestement il ne garde pas les commandements de Dieu, éloignez-vous de lui, car la vérité n'est pas en lui. C'est les conséquences de ce que dit ici l'apôtre Jean. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais une vérité qui est dite, mais la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2,4 « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Et la troisième affirmation est à nouveau positive, comme les autres d'ailleurs, et merveilleuse. 1 Jean 2,5 « Lisez avec moi. « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. » Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons demeure chez lui. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Garder la parole de Dieu, c'est l'aimer. Garder la parole de Dieu, c'est l'aimer. C'est entrer dans son amour, parce qu'il est manifesté dans sa parole. Vous savez, Jésus résume toute la loi par l'amour dans deux directions. Toute la loi résumée par l'amour dans deux directions. Vous avez déjà vu ça dans Matthieu 22? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est bon. Il est la source de l'amour. Tout ce qu'il dit et qu'il demande manifeste un amour vrai. L'amour est à la racine de toute la loi de Dieu. Pensez aux 10 commandements qui manifestent l'amour pour Dieu et pour les autres. Je prends juste la deuxième table qui parle de l'amour pour les autres. Ça parle en fait du respect de l'autorité, du respect de la vie, du respect de l'intimité, de la propriété, de la réputation des autres sans arrière-pensée. En fait, vivre les commandements, c'est aimer. 1 Jean 2,5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. La quatrième affirmation contient aussi un ordre. On continue. Deuxième partie du verset 5, à ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui le Seigneur a marché. Un test qui nous permet de savoir si nous sommes chrétiens, c'est si nous déclarons demeurer en Christ comme le cep est lié au sarment et que nous marchons comme le Seigneur a marché. Alors pour marcher à la suite de quelqu'un, eh bien il faut connaître son parcours. Les chemins qu'il a empruntés, les montées, les descentes qu'il a faites, les ponts, les tunnels qu'il a traversés. Si on veut le suivre, il faut connaître son parcours, non? Sinon on ne peut pas le suivre. Il est peut-être aussi utile de considérer son équipement qu'il avait avec lui pour toute la randonnée, afin de s'en inspirer, pour être capable de marcher à sa suite jusqu'au bout. Alors, qui est-ce qu'on cherche à suivre? C'est Jésus-Christ. Donc, on cherche à le connaître, à connaître son équipement, à connaître ses motivations. Et Jésus lui-même a dit, ma nourriture, voilà, quand on marche, on a besoin de nourriture, évidemment. Donc, ma nourriture, Jean 4,34, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la nourriture. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Ou encore, dans Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu? C'est de vivre la volonté de Dieu. Alors, Je ne vais pas prendre le temps maintenant de faire tous les évangiles pour voir tout ce que Jésus a vécu, ce qu'il était, tout ce qui a été annoncé de lui et qui s'est réellement passé et que nous sommes appelés aussi à considérer dans la marche que nous vivons. J'aimerais juste quand même parler de Ésaïe 53 où il est dit « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. S'il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. » Ça, c'est un sentier que Jésus a emprunté. Ne serions pas surpris si cela nous arrive, si nous suivons ce même sentier. Jésus a manifesté de l'amour envers les autres, de la compassion, de la patience, de la bonté, de la grâce, de la bienveillance. C'est des chemins qu'il a suivis. Marchons-nous comme le Seigneur a marché? Vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste un acquiescement intellectuel ou émotionnel. C'est une vie vécue à la suite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Être chrétien, c'est marcher avec Dieu. Moi, j'aime cette expression. On la retrouve dans la Bible. Très tôt, dans Genèse, avec Enoch, il marcha avec Dieu. Il n'y a presque rien dit sur Enoch. C'est presque la seule chose dont il est dit. Bon, après, il ne fut plus Dieu parce que Dieu le prit. Mais il marcha, c'est un témoignage juste fantastique. Si lorsque vous n'êtes plus là, quelqu'un parle de vous et dit, Loïc a marché. Quel témoignage. C'est ça en fait. C'est exactement vivre ce qu'il a dit ici dans 1 Jean 2. Noé a marché avec Dieu. Dieu demande à Abraham de marcher devant sa face et d'être intègre. Jésus dit qu'il faut marcher dans la lumière. Marcher, c'est une tellement belle illustration. En fait, chaque fois que vous marcherez, vous pourrez y penser. Je marche, donc je cherche à suivre Jésus. Mais j'aimerais aussi vous rassurer, c'est que des fois vous ne pouvez plus marcher physiquement. Mais vous pouvez continuer à marcher avec Christ. Couché sur votre lit, vous pouvez marcher à la suite de Jésus-Christ. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui le Seigneur a marché. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu, que nous sommes en lui, que nous demeurons en lui. En fait, que nous sommes en communion. On revient à cette communion. Ces gens, ils désirent que les chrétiens soient en communion avec le Père, le Fils et les uns avec les autres. Jean disait que ce qu'il annonçait, il le disait afin que ses lecteurs soient en communion avec le Père. Et aujourd'hui, nous pouvons voir avec ce test moral qu'il veut que chacun connaisse qu'il est en communion. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu. Nous connaissons que nous demeurons en lui, que nous sommes en lui. Ah, moi j'aime Job qui connaissait son Dieu. Il dit dans Job 19:25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, je connais. Et il se lèvera le dernier sur la terre après que ma peau ait été détruite. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront, et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Si vous lisez tout le livre de Job, vous vous rendrez compte que Job avait l'habitude de garder les commandements de Dieu. Il savait ainsi qu'il avait connu Dieu. Quel merveilleux encouragement pour chaque chrétien qui cherche de tout cœur à vivre selon ces commandements de Dieu. Il se rend compte, c'est vrai, on se rend compte qu'on ne les vit pas parfaitement. Mais parce que nous aimons ces commandements, parce qu'on les respecte, parce qu'en fait ils sont là dans notre cœur, eh bien nous connaissons que nous l'avons connu. Ça doit être rassurant. Oui, je suis en lui. J'en veux que toi qui crois, tu saches que tu es en communion avec Dieu et que tu as la vie éternelle. Et d'autre part, quel puissant avertissement pour toi qui n'as pas ce désir habituel de vivre les commandements. Que cela n'est pas dans ton cœur. Quelque part, tu suis les commandements parce que quelqu'un te dit de le faire. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas dans ton cœur. Tu n'as pas envie de les vivre. Tu ne veux pas de manière habituelle. Et j'aime même pas te donner de faux espoirs, comme malheureusement c'est trop souvent le cas. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle en continuant de vivre d'une manière rebelle contre Dieu. Ce n'est pas possible. La vie éternelle, ce n'est pas un ticket, mais une transformation de vie. La délivrance de l'iniquité. Ce n'est pas un jour je dis « Oui, Seigneur, je t'aime, c'est bon. » Puis après, je vis comme un patachon et les commandements de Dieu, je ne les aime même pas. Et bien dans ce cas-là, je suis perdu. Et la seule chose que je peux dire, mais c'est si le test a échoué pour là, n'en reste pas là. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais repens-toi. Crois que Christ a payé le prix et qu'il te donne sa sainteté. Et si le test a réussi, mes amis, si vous dites, mais oui, je veux vivre ces commandements, eh bien, réjouissez-vous, réjouissons-nous que notre nom est écrit dans le livre de la vie. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous venons à toi avec plusieurs sentiments. Nous pouvons être tremblants devant toi parce que tu es un Dieu saint. Et nous nous rendons compte que nous n'arrivons pas à vivre ces commandements par nous-mêmes. Mais Seigneur, nous pouvons aussi venir devant toi parce que Christ a payé, nous sommes pardonnés et nous avons réellement ce désir de les vivre. Et j'aimerais te dire merci, parce que c'est un baume sur notre cœur, c'est un encouragement. Tu ne nous laisses pas dans ta parole dans une situation où nous disons peut-être que nous aurons le salut, peut-être que nous sommes sauvés, peut-être que nous avons connu le vrai Dieu. Il n'y a pas de peut-être dans ta parole, Père. Et nous te remercions. À ceci, nous reconnaissons que nous t'avons connu, si nous gardons tes commandements. Et j'aimerais te prier, Père, pour celui ou celle qui se rend compte que ces commandements ne sont pas vécus parce qu'il les trouve bons, parce qu'ils font partie de sa vie, parce qu'ils font partie de cette nouvelle nature que tu lui aurais donnée. S'il se rend compte de cela, eh bien, j'aimerais te prier vraiment, Père, que ton esprit agisse dans le cœur afin qu'il ait repentance et qu'il croie que Jésus-Christ a payé et qu'il a vécu une vie parfaite qu'il nous donne. Ô Seigneur, je te prie vraiment, c'est une question, nous le savons, de vie ou de mort éternelle. Eh bien, j'aimerais te dire merci parce qu'encore aujourd'hui tu agis, encore aujourd'hui tu fais des miracles, encore aujourd'hui tu ressuscites, encore aujourd'hui tu transformes et tu donnes des vies nouvelles et nous voulons t'en louer. Et pour tous ceux qui te connaissent et qui t'aiment, nous pouvons te dire, nous t'aimons Seigneur, reviens bientôt.